Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une visioconférence et un appel aux dons pour soutenir les Libanais aujourd'hui. Les Libanais, oui, car le gouvernement du pays, depuis la double explosion de Beyrouth cet été, n'a toujours pas changé, contrairement à ce que souhaitait Paris, qui organise la conférence. Le point sur la situation politique et juridique en début de journal.
Nous entendrons ensuite des membres du collectif Interhôpitaux en France. Malgré les belles promesses, la crise structurelle du secteur n'est pas résolue, disent-ils. Et ils sont soutenus par l'écrivaine Marie Desplechin.
Pas de ski à Noël, même chez nos voisins européens. Emmanuel Macron envisage des mesures dissuasives pour les Français. Levée de boucliers de toutes parts en quelques heures à peine.
Dans ce journal encore, le rapport Froin sur les travailleurs des plateformes. Ils ne préconisent pas de statut spécifique pour ceux qui travaillent chez Uber ou Deliveroo.
Et puis comment nettoyer l'espace ? Vaste terrain, vaste question à laquelle nous répondrons dans moins d'un quart d'heure. Car l'Europe investit pour y participer. Après cette édition, le billet politique, Frédéric Seyss posera la question que tout le monde se pose. Faut-il rebaptiser le Parti Socialiste ? Elle subventionnait jusque-là un certain nombre de produits de base au Liban et de produits importés comme le carburant, la farine ou les médicaments. La Banque du Liban ne pourra pas maintenir ses subventions au-delà du mois de janvier prochain. Date limite dans 2 mois, dit-elle, car elle n'a plus les réserves de change suffisantes. Voilà le dernier exemple datant d'hier soir, exemple d'une économie libanaise qui s'effondre, qui s'enfonce dans une dépression délibérée, selon les mots de la Banque mondiale. Elle pointe du doigt les dirigeants du pays qui laissent faire, et c'est bien parce qu'ils ne font rien que la visioconférence internationale organisée aujourd'hui s'attachera à soutenir les Libanais et non le gouvernement libanais. Sont conviés à cette conférence des chefs d'État, des organisations internationales ou encore des bailleurs de fonds multilatéraux. 4 mois, je vous le rappelle, après la double explosion qui avait ravagé la capitale Beyrouth. Paris organise cette conférence et veut aider le peuple, Aurélien Colli.
Emmanuel Macron reste engagé et il ne laissera pas tomber. Promesse d'un de ses conseillers de passage au Liban, exaspéré comme le président français par l'inertie des chefs de parti libanais. Il répète depuis 3 mois qu'ils soutiennent l'initiative française, qu'ils veulent aussi un gouvernement d'experts pour mener des réformes, combattre la corruption et débloquer l'aide internationale. Mais dans les faits, ils n'ont pas bougé, sauf pour des jeux politiciens qui entretiennent le statu quo. Toujours pas de gouvernement, pas de réformes, même l'audit de la Banque centrale demandé par le FMI est bloqué. Résultat, pas de grande réunion internationale pour le Liban, comme Paris l'envisageait à un moment, avec un gouvernement crédible pour récolter les milliards dont le pays a besoin. Mais à la place, cette visioconférence en soutien à la population libanaise, selon le communiqué de la diplomatie française, qui met en avant la participation d'ONG et de représentants de la société civile, des acteurs qui attendent aussi d'Emmanuel Macron qu'il avance sur la mise en œuvre de sanctions internationales contre les principaux dirigeants libanais accusés de prendre le pays en otage.
Des dirigeants libanais accusé aussi d'être responsable de l'explosion à Beyrouth le 4 août dernier. 200 personnes y étaient mortes, 300 000 personnes ont été touchées. Et l'enquête, en 4 mois, piétine un peu, Aurélien Colli.
51 témoins entendus, 25 personnes en détention provisoire, agents administratifs ou petits personnels des douanes, du port ou de la sécurité, mais aucun responsable politique mis en cause pour l'instant, alors que nombre d'entre eux ont admis avoir été alertés de la présence du nitrate d'ammonium dans le port de la capitale.
On va être clair.
Melem Khalaf est bâtonnier de Beyrouth, avec une armée d'avocats bénévoles, il représente 1 millier de victimes de l'explosion.
On a la responsabilité des ministres, on a la responsabilité des premiers ministres, on a le gouvernement. Mais ce n'est pas une vengeance. On est en train de réclamer une justice.
Une justice que l'État doit aux Libanais, insiste l'avocat. Des dizaines étaient d'ailleurs encore la semaine dernière, malgré le confinement, sous les fenêtres du juge chargé de l'enquête, pour réclamer une instruction transparente, hermétique aux pressions politiques, qui ne se contente pas de responsables de second rang, ni de la seule piste avancée jusqu'à présent, celle de la négligence et d'un accident lors de travaux de soudure. Il y a encore trop de questions sur les conditions d'arrivée du nitrate à Beyrouth en 2014 dans un navire poubelle, souligne l'avocat Melem Khalaf. Beaucoup encore aussi sur ce qui a déclenché exactement l'explosion du stock le 4 août.
Comment on peut faire exploser 2700 tonnes de nitrate sans une ingénierie de détonateur? Tous les experts auxquels on s'est fié disent il faut un détonateur. On ne va pas admettre l'idée de la soudure accidentelle. Toutes les pistes auxquelles on peut penser.
Et elles sont nombreuses chez des Libanais habitués aux coups tordus de leurs responsables politiques ou des pays de la région. Beaucoup sont ainsi convaincus que l'explosion est liée d'une manière ou d'une autre à la guerre secrète que se livrent le voisin israélien et son adversaire libanais du Hezbollah aligné sur l'Iran.
Aurélien Colli pour ce dossier réalisé pour France Culture depuis Beyrouth, à l'aube donc d'une conférence internationale pour aider le peuple libanais. En août dernier, 250 millions d'euros avaient déjà été récoltés. Les hôpitaux se vident peu à peu de malades du Covid-19 en France. En tout cas, le nombre de patients hospitalisés à cause du coronavirus repasse sous le seuil des 28 000 personnes. Nous retrouvons ces seuils du mois de septembre. Mais entre-temps, l'hôpital public a-t-il, lui, évolué? Les milliards d'euros promis sont-ils arrivés? Non, si l'on en croit le collectif Interhôpitaux qui s'était déjà mobilisé avant la crise du nouveau coronavirus il y a un an et demi. Lundi avant-hier, le Parlement a approuvé définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2021 avec des économies demandées encore à l'hôpital. Le collectif qui regroupe des soignants et des usagers s'inquiète donc et peut compter, Tara Schlegel, sur le soutien remarqué de l'écrivaine Marie Desplechin.
Oui, elle avait parraîné il y a un an une pétition, 350 000 signatures pour un plan d'urgence pour l'hôpital. Depuis, le gouvernement a certes annoncé 8 milliards d'euros, dit Marie Desplechin, mais pourquoi faire? Elle se dit incapable d'analyser ce chiffre.
Parce que dans le même temps, ce qu'on entendait, c'est que les lits continuaient à fermer un peu partout, que les avantages qui étaient effectivement accordés au personnel étaient somme toute assez dérisoires et en tout cas toujours inférieurs aux moyennes de l'OCDE. Et que visiblement, rien n'allait bouger dans le mode de gestion administrative des hôpitaux. En fait, c'est comme si rien n'avait servi, ni les mobilisations des soignants, ni les pétitions, parce qu'il y en a eu plusieurs, des soignés, ni les leçons de la pandémie. Je pense, je ne suis pas la seule, comme usager, qu'il y a quelque chose de profondément humiliant, inquiétant et menaçant dans la surdité des gouvernants et dans le fait qu'ils estiment qu'on peut se payer de déclarations et de fausses réformes.
Agnès Hartmann est chef du service de diabétologie à la Pitié. Dans la loi votée avant-hier, on demande encore 1 à 2 milliards d'euros d'économies aux hôpitaux, alors que le personnel est en train de fuir.
En septembre, c'était impossible, plus personne ne voulait venir. Et puis d'un seul coup, là en novembre, on a vu arriver beaucoup de personnel d'intérim dans les services de médecine, parce qu'on leur a proposé de gagner 25% à 30% de plus que les salaires de nos infirmières et de nos aides-soignantes en ce moment dans les services. D'ailleurs, ça a créé énormément de tensions. Et puis là, en ce moment, dans mon service, la phrase des personnels, c'est « ça va pas durer ». Ça va pas durer. Super quand c'est comme ça, on peut enfin souffler, mais ça va pas durer.
Ambiance noire, résume le collectif, avec en plus des fermetures de lits qui continuent à La Réunion, Nantes, Caen et Paris, avec 368 lits en moins prévus, rien qu'en Île-de-France.
Pour mieux comprendre les chiffres avec lesquels jonglent les autorités et les syndicats autour de l'hôpital public, vous pouvez retrouver la bulle économique que Marie Viennot vous propose tous les week-ends. Elle est sur notre site franceculture.fr. Un vaccin contre le Covid-19 disponible en France pour le plus grand nombre entre avril et juin. C'est en tout cas ce qu'envisage Emmanuel Macron. Pour les plus âgés, les résidents des EHPAD notamment, et puis pour le personnel soignant, la vaccination, je vous le rappelle, aura lieu en janvier, voire fin décembre, en fonction de la disponibilité des vaccins. Emmanuel Macron, qui a indiqué par ailleurs hier que le gouvernement envisageait de prendre des mesures restrictives et dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Pas de ski, où que ce soit, pour les fêtes de fin d'année. Respect de l'équité, estime le chef de l'État. Il pense notamment à la Suisse, dont les remontées mécaniques resteront ouvertes alors qu'elles sont fermées en France. Ces mesures dissuasives pourraient passer par des contrôles. Mais déjà, la proposition ne plaît pas du tout à certains élus. Écoutez notamment les arguments de Julien Aubert. Il est député Les Républicains dans le Vaucluse.
Je pense qu'on est dans une situation complètement incongrue. Pendant un mois, on a assigné les Français à domicile tout en leur permettant de circuler en Europe. Et maintenant, on va fermer les frontières en leur proposant de pouvoir circuler en dehors de leur habitation. Donc c'est complètement illogique. Et au plan sanitaire, c'est stupide. Au plan des libertés, c'est liberticide. C'est la preuve qu'Emmanuel Macron n'a pas de stratégie et qu'il fait toujours des jugements de Salomon qui consistent à proposer de couper l'enfant en deux, ce qui n'est pas exactement la bonne manière, si vous voulez, d'aborder un sujet.
Et l'incompréhension est la même pour les professionnels et les élus à la montagne. S'ils saluent l'idée d'une équité, ils regrettent une gestion à la petite semaine, selon eux, par un gouvernement dépassé par leurs problématiques. Les travailleurs des plateformes du type Uber ou Deliveroo n'auront pas de statut spécifique. En tout cas, ce n'est pas ce qu'a retenu la mission Frouin, du nom de Jean-Yves Frouin, l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Son rapport doit être rendu aujourd'hui à Matignon. Il s'agissait de sécuriser juridiquement la relation entre les travailleurs et les plateformes. Et pour y arriver, comment les auteurs ont-ils travaillé, Anne-Laure Jumet ?
La mission Frouin a examiné les différentes hypothèses. Créer un nouveau statut entre salariat et travail indépendant, c'est une solution qui n'éteindrait pas les contentieux entre les travailleurs et les plateformes, estime-t-elle. Pire, elle entraînerait un nivellement par le bas. Évacuer aussi l'idée de qualifier d'emblée de salariés, des chauffeurs de VTC ou des livreurs. Ce serait pourtant l'option la plus claire et la plus simple, estiment les auteurs du rapport, mais ce n'est pas la feuille de route fixée par le gouvernement. D'où cette troisième voie, passer par des tiers pour donner des droits aux travailleurs des plateformes. Ces tiers existent déjà, les entreprises de portage salarial ou les coopératives d'emploi et d'activité pourraient ainsi embaucher ces personnes pour le compte des plateformes, avec donc tous les avantages liés au salariat, sécurité sociale, assurance chômage, tout en maintenant une certaine flexibilité et une autonomie dans le travail. Alors, cette proposition ne concernerait pas tous les travailleurs des plateformes, l'idée étant de la rendre obligatoire à partir d'une certaine durée d'activité, de 6 à 12 mois, et d'un certain montant de chiffre d'affaires. La mission formule aussi des propositions pour un meilleur dialogue social. Elle se prononce aussi en faveur d'une rémunération minimale et fixe même deux planchers, 7 euros net par prestation et un tarif horaire de 15 à 18 euros. Ce rapport doit maintenant servir de base aux discussions qui vont s'ouvrir entre le gouvernement et les partenaires sociaux, avec comme point d'arrivée la rédaction d'une ordonnance au mois d'avril.
Anne-Laure Jumet pour France Culture. Et à 8h11, cette information donnée à l'instant par le laboratoire Pfizer qui estime qu'un vaccin pourrait être disponible en Grande-Bretagne dès la semaine prochaine. En tout cas, Pfizer et BioNTech se disent prêts à livrer immédiatement les premières doses au Royaume-Uni. Royaume-Uni qui autorise l'usage de ce vaccin dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. C'est un accomplissement des avancées scientifiques dans le combat contre la pandémie. Voilà ce que dit à l'instant le laboratoire Pfizer à propos de cette possible mise sur le marché en Grande-Bretagne contre le Covid-19. Le Covid-19, justement, c'était il y a un an, à jour pour jour, le premier cas officiel de Covid-19 en Chine. Et aujourd'hui, CNN en profite pour publier une enquête que l'on pourrait baptiser les Chinese Leaks. Il s'agit de 117 documents obtenus grâce à un lanceur d'alerte anonyme qui dit avoir travaillé au sein du système de santé chinois. Et ces documents mettent au jour des défaillances qui ont conduit les autorités chinoises dépassées, selon ces documents, à ne pas informer le reste du monde à propos de la pandémie à venir. Allez, pour terminer, prenons un peu de hauteur au sens propre du terme avec cet alunissage d'une sonde chinoise cette nuit. Elle va servir à collecter des échantillons de roches lunaires. Il s'agit de la première mission du genre depuis celle menée par l'ex-URSS en 1976. Et c'est surtout un premier pas chinois avant de pouvoir le poser véritablement sur la Lune. Et qui dit conquête dit souvent occupation de l'espace et donc déchets. Je vous le disais lors du sommaire de ce journal, la première mission de nettoyage de l'espace est déjà pensée, elle est prévue pour 2025. L'Agence spatiale européenne a signé hier un contrat avec la société Clear Space, contrat à 86 millions d'euros. Cette start-up suisse a mis au point un appareil qui est capable de détruire des déchets en orbite et il commence à y en avoir beaucoup, Arnaud Rozac.
Depuis le lancement de Spoutnik en 1957, la Chine, les États-Unis et la Russie dispersent des débris un peu partout dans l'espace. Des étages supérieurs de fusées, des protections de télescopes. En tout, 34 000 objets d'au moins 10 cm se déplacent au-dessus de nos têtes. Et certaines zones de l'orbite deviennent difficiles à atteindre. Christophe Bonnat est spécialiste de la question au Centre national d'études spatiales.
Ce qu'on craint, c'est un phénomène qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'est-à-dire les débris rentrent en collision avec quelque chose, régénèrent des nouveaux débris qui eux-mêmes vont rentrer en collision avec quelque chose, etc., etc. Aujourd'hui, si vous lancez un nouveau satellite dans ces zones-là, il a à peu près 5% de chance de mourir d'un impact de débris pendant sa durée de vie.
Pour désengorger l'espace, pas besoin d'éliminer tous les déchets. Il faut d'abord s'attaquer aux plus gros. Certains pèsent plusieurs tonnes, mais chaque chose en son temps. Pour sa première mission, le satellite Adrios va s'occuper d'un débris de 112 kilos situé à 800 kilomètres en orbite. Christophe Bonal, consulté pour la mise au point de l'appareil, en explique le fonctionnement.
Il a quatre bras robotiques qui se déploient et qui vont se replier autour du débris. Donc pour le capturer, le stabiliser, une fois qu'il est bien accroché, à ce moment-là, Adrios va faire demi-tour, quelque part, va freiner au-dessus du sud du Pacifique, de manière à détruire le débris via la rentrée atmosphérique.
Ce premier nettoyage, prévu pour 2025, sert de démonstration, et s'il s'avère concluant, de nouveaux modèles de satellites nettoyeurs, plus performants encore, verront le jour.
C'était Arnaud Rozac pour France Culture. Le temps sera assez nuageux aujourd'hui, mercredi, parfois pluvieux et toujours assez froid, de la Normandie jusqu'à l'Auvergne. Ce matin, il fait 1 degré à Strasbourg, 3 à Bordeaux et Grenoble, 7 à Paris et 10 degrés à Nice, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, nous allons retrouver nos invités, Pierre Gatineau, rédacteur en chef d'Intelligence Online, et Frédéric Ancel, qui est maître de conférence à Sciences Po. Nous allons évoquer l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, l'architecte du programme nucléaire iranien. C'est une affaire à la John Le Carré, mais elle débouche sur une manière de lire la géopolitique à un moment absolument crucial pour le monde, puisque Donald Trump va céder la place à Joe Biden à la Maison-Blanche dans une demi-heure environ. Vous retrouverez nos camarades Hervé Gardet, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis dans quelques instants, un billet politique avec vous, Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Est-ce qu'il faut rebaptiser le Parti Socialiste et pourquoi ce parti cherche-t-il un nouveau nom ?
Réponse dans quelques instants.